Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole a cette capacité de nous transpercer, d'être un miroir. Ta parole a la capacité de réformer ce qui, dans nos vies, a besoin d'être réformé. Pour davantage te ressembler, afin que nos vies illuminent de ta présence. Ce n'est possible que par ton esprit. La chair n'est pas capable de cela. Pourquoi nous comptons sur l'assistance de ton esprit ? Et moi-même ce matin, je m'appuyais non pas sur ma chair, sur mes capacités intellectuelles, toutes ces choses, mais sur toi seul. Afin que ce soit toi qui puisse parler à travers moi de ce que tu veux communiquer à cette communauté. Nous voulons être à l'écoute, Seigneur, de ce que tu veux dire. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. C'est un cri prophétique. Parce qu'on aurait tendance, et c'est la chair qui est comme ça, de tomber dans la torpeur, dans la passivité. C'est comme ça, nous sommes des êtres humains, et s'il n'y a pas la parole de Dieu, ça passe aussi par les enseignements, ça passe par l'écoute de la parole de Dieu et la voix de son esprit, qui est là pour nous stimuler, pour nous rappeler que si on continue sur ce chemin, vous savez, l'apostasie, c'est ça. L'apostasie, ce n'est pas forcément renier Jésus-Christ devant la foule. En fait, c'est une attitude qui progressivement, le bateau, il commence à... L'amarrage a été enlevé, comme ça, pour des raisons. Et puis le bateau, forcément, il va commencer à partir. C'est ça. C'est, des fois, c'est subtil. Et on se rend compte qu'au bout d'un moment, on se réveille que, en fait, la berge est à 200 mètres. Et là, c'est la panique. Donc, ce serait dommage d'en arriver là. Mais la parole de Dieu est là pour nous avertir et nous amener. Donc, ce que j'avais noté, c'est, vous savez, le début d'année, c'est le moment des résolutions. On veut, je pense que tous, on est sincère au fond de nous-mêmes, qu'on aime prendre des résolutions, se tenir à des engagements, mais on se rend vite compte qu'en fait, ça ne tient pas longtemps. Hein, vous êtes comme moi, je ne pense pas être le seul. Mais ça, c'est la réalité. Nos habitudes sont tellement bien ancrées que c'est difficile. Et comme on est en ce début d'année, et en même temps, c'est bien qu'il y ait ce temps de jeûne qui est là pour introduire toute cette année qui est devant nous, où on veut vraiment chercher la vision qui vient de Dieu, la direction qui vient de Dieu, parce que humainement, je pense qu'il y a toutes les compétences ici pour faire tourner une entreprise. Il n'y a pas de souci, on peut trouver des buts, des machins, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est d'être dans le plan de Dieu, c'est autre chose. Et pour ça, c'est bien de mettre des temps à part dans le jeûne et la prière pour être à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire. Et comme je disais, peut-être durant cette semaine, peut-être aussi en réaction à ce message, mais que ça soit un temps où on puisse se repositionner à nouveau. Se repositionner à nouveau, prendre même peut-être un nouvel engagement avec Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on va se rebaptiser, vous aurez bien compris. Mais des fois, j'ai entendu ça dernièrement, un couple qui, après 40 ans de mariage, ils se sont, alors je ne dis pas remariés, comprenez bien, mais ils ont voulu en fait refaire une cérémonie pour marquer le coup. Et je pense que c'est bien des fois de marquer des événements pour dire, c'est pas ça qu'on va faire un remariage à la mairie, vous l'aurez compris, mais de marquer un événement pour dire, voilà chérie, ça fait 40 ans qu'on est ensemble, on va marquer ce coup-là et je veux vraiment te témoigner tout à nouveau cet engagement que j'ai pris c'était en 99 que j'ai pris, et voilà, j'ai peut-être pas toujours été à la hauteur, j'ai peut-être, voilà, tout ça, tu me connais, on vit au quotidien ensemble, mais je veux vraiment marquer un tout à nouveau que, oui, je m'engage à faire mon maximum pour te rendre heureuse. Puisse-t-il d'être des hommes du milieu de cette assemblée qui ont pour objectif de rendre leur femme heureuse, de leur simplifier la vie ? Parce que les hommes, nous, on est fort pour ça. Il faut que la femme soit médecin, psychologue, et j'en passe. Donc voilà, c'est vraiment donc prendre ce temps pour se repositionner et marquer un nouvel engagement. Peut-être qu'on clôturera le message avec juste un acte. J'ai mis en introduction, en tout cas c'est mon texte de base, j'ai voulu partir sur l'une des lettres écrites à l'église de Sardes. Vous savez, l'Apocalypse, ça commence avec sept églises. Et Jésus va parler à chacune de ces églises. Il a un message spécifique pour chacune d'elles. Alors, je ne vais pas faire une introduction à l'Apocalypse. Ça m'exciterait au fond de moi, ça boue, mais je n'ai pas le temps. Donc, on va aller directement à ce qui nous convient. Donc, Jean reçoit la révélation de l'Apocalypse sur l'île de Patmos. C'est la persécution qui frappe. Et voilà que dans ce temps, il va recevoir la révélation de l'Apocalypse. Vous savez que Jean avait la responsabilité, en tout cas la juridiction de ces églises qui sont actuellement en Turquie. Il avait sept églises et il va recevoir pour chacune de ces églises un message particulier. Alors, il y a eu plusieurs interprétations qui ont été données, on ne va pas rentrer dans ces considérations-là. Mais ce que je retiendrai, c'est que Jésus va dire en premier, « Écris à l'ange de l'église de Sardes. » Alors, vous avez le mot « angelos » qui est souvent traduit dans vos bibles par soit « ange » ou « messager ». C'est un choix de traducteur. Mais je préfère opter par messager parce que si on met l'ange, on imagine. Alors certains ont imaginé que c'est un ange. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a une autorité spirituelle qui est déléguée à chaque église, peut-être, on ne sait pas. Je pense qu'il y a des messagers écrits aux messagers de l'église de Sardes. Et je me suis arrêté sur ce passage-là et je me suis dit, c'est vrai que quand nous lisons, quand vous lisez l'Apocalypse, et en tout cas ces lettres à l'Apocalypse, on les prend généralement pour nous. Pour nous, comme si elle nous était adressée à nous en tant qu'individus, et j'ai rien contre cela. Mais il s'adresse avant tout aux messagers, c'est-à-dire aux responsables, ceux qui ont la responsabilité de l'Église. Et ça m'a interpellé pour dire que il serait bien, parce que c'est cette Église, sept en même temps, c'est la complémentarité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'en inventer une huitième, tout est dit dans ces sept. C'est-à-dire ces sept aspects, ces sept saisons. C'est sept, voilà. Et ça peut être en même temps, certains ont vu dans ces sept églises, toute l'église depuis 2000 ans, qui commence avec l'église primitive, etc., la réforme, pourquoi pas. Hein. Mais je pense que c'est bien qu'en tant que communauté, et là je m'adresse à ceux qui ont la responsabilité de la communauté, de lire ces sept églises et en toute humilité, en tenue de dire. Dans quelle saison nous sommes ? Quelle est laquelle des sept églises correspond avec ce que nous vivons présentement ? Vous voyez ? Et on fait confiance à nos responsables et à leur engagement et qu'ils cherchent la face de Dieu. Et donc, j'ai pris cette église de Sardes parce que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant qui, bien sûr, à moi me parle en premier. Je dois être le premier concerné par ce que je dis. Et après, quand on m'a demandé d'apporter, ça m'est tout de suite venu ce message. Je dis, bon, je l'ai préparé. Et effectivement, cette église, il y a moyen d'afficher le passage ou pas ? Voilà, on va le lire juste une première fois. Donc, écrit à l'église de Sardes, au messager de l'église de Sardes, écrit. Voici ce que dit celui qui a le sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as la réputation d'être vivante, mais en réalité tu es morte. Sois vigilant et avertis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Garde-le et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je surgirai sur toi. Cependant, tu as quelques personnes à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi, vêtus en blanc, car ils en sont dignes. C'est de vêtements blancs que le vainqueur sera ainsi revêtu. Je n'effacerai pas son nom du livre de la vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Donc pourquoi Sardes ? Juste quelques données pour bien comprendre le contexte, parce que quand on lit une des sept lettres de l'Apocalypse, pour comprendre le message qu'il leur adressait, il faut aussi comprendre le contexte. Sinon, des fois, on ne comprend pas. Alors, je ne dis pas que c'est vital ce que je dis, mais ça nous permet de comprendre certains éléments qui sont donnés dans la lettre. Effectivement, l'église de Sardes, pour ceux qui ont étudié un petit peu, on sait que c'était la ville du roi Crésus. Vous savez, Crésus, donc souvent on fait l'expression « riche comme Crésus », ça veut dire être plein aux as, c'est-à-dire être riche. Donc Sardes était une ville, vous voyez, j'ai mis la photo là, si tu peux la remettre, la photo. Il y avait la photo, voilà. Donc là, c'est les ruines de Sardes. Et vous avez l'acropole. Bon, là, il ne reste plus grand-chose de l'acropole, mais vous aviez cet éperon rocheux qui, sur trois côtés, c'était vraiment abrupt. Et donc, vous aviez la citadelle du roi qui était tout en haut, qui était quasiment imprenable. C'est pour ça qu'il l'avait fait bâtir là-haut. Donc, Crésus avait fait bâtir son palais là-haut. Et il y avait, très intéressant aussi, en bas du l'éperon rocheux, un fleuve qui s'appelait le Pactole. Le Pactole, d'où l'expression toucher le Pactole. Voilà, tout ça c'est lié. Ça donne un petit peu en même temps le contexte de cette église. On n'invente pas des mots, hein, faut simplement savoir d'où ils viennent. Mais il y avait donc ce fleuve qui s'appelait le Pactole, qui aujourd'hui est pratiquement à sec, parce que ils avaient trouvé des pépites d'or. Et ça avait forcément ameuté, tout le monde venait, et ça avait en même temps procuré la richesse de la ville qui était Sardes. Et c'est très intéressant aussi, pas précisément à Sardes, mais en tout cas c'était la région des Lydiens, la région de Lydie, où la monnaie a été quasiment inventée. Ça date aussi de cette région-là. Et donc, cet éperon rocheux, où il y avait la citadelle en haut, l'histoire nous apprend que, en fait, cette citadelle avait été bâtie là-bas, croyant qu'elle était imprenable, inattaquable, on se croyait en sécurité. Malheureusement, par manque de vigilance, le roi Cyrus, dont il est fait mention dans la Bible, a attaqué de nuit, par surprise, le palais du roi Crésus, et donc il le prit en sa possession. Et 300 ans plus tard, comme l'histoire se répète, comme on ne s'est pas tiré de leçon, cette fois-ci c'est Antiochus III qui va prendre d'assaut la citadelle. Ils ont analysé qu'il y avait un petit passage secret et qu'un garde avait fait tomber son casque, et ils ont vu que le garde avait emprunté ce passage, et ils ont tout de suite vu la faille, le talon d'Achille de la citadelle. Et donc, ils ont profité de cette faille pour s'emparer. Donc vous comprenez, et les assauts se font toujours de nuit, vous comprenez en ce cas, quand on relit le verset, où il est dit, « Si tu ne vieillis pas, je viendrai comme un voleur. » C'est-à-dire que les Sardois, je ne sais pas si on dit comme ça les Sardois, mais en tout cas les habitants de les chrétiens de la communauté de Sardes, ils avaient compris de l'imminence, peut-être, que s'ils ne veillaient pas, d'un assaut de l'ennemi. Donc ça nous permet de comprendre, on le voit très clairement dans l'église de la Odyssée, on connaît tout ce passage où il est dit « comme tu n'es ni tiède, comme tu n'es ni bouillant, ni froid, en quelque sorte tu es tiède, donc parce que tu es tiède, moi je vais te vomir. Puisses-tu être froid, glaçon, ou puisses-tu être bouillant ?» Mais pas l'entre-deux. L'entre-deux, c'est terrible. Et Dieu vomit. Pourquoi il dit ça à l'église de la Odyssée ? Parce qu'à la Odyssée, vous aviez à quelques kilomètres plus haut, la ville d'Hériapolis, qui amenait ces eaux chaudes qui arrivaient à Laodicée, et vous aviez à Colosse les eaux froides qui venaient. Et ça arrivait à Laodicée, et il y avait deux grands bassins qu'on peut voir actuellement encore, même les aquaducs si vous allez là-bas, et l'eau arrivait donc en quelque sorte tiède. Et ceux qui voulaient boire cette eau, en fait, elle avait un effet vomitif. Même les sources historiques nous parlent de ça, celles entre autres, qu'on prenait ces eaux quand vous vouliez vous faire vomir pour des raisons médicales. Donc, quand Jésus dit ça à l'église de Laodicée, les Laodicéens comprennent tout de suite de quoi il est question. Vous voyez ? C'est comme si aujourd'hui on devait donner un message à Pompéi, vous allez forcément parler du volcan. Les gens comprendront tout de suite. C'est comme si nous, aujourd'hui, en tant que Français, on nous disait un fait marquant de la France, c'est la Révolution française. On pourrait dire aujourd'hui, on sent que ça monte en pression. Vous voyez ? Donc il faut prendre en considération le contexte. Je bois un petit peu. Je peux être assez bavard. Elle est froide, ça va. Sinon, c'est bien, tu suis. Et c'est aussi à Sardes qu'on a trouvé les pierres qui ont donné le nom de les sardoines. La sardoine, qui est une des pierres qui était sur le pectoral du jugement du grand Cohen Agadol, le grand sacrificateur. Vous savez qu'il y avait 12 pierres. Et la première pierre, c'était la sardoine, en référence à Ruben. Et c'est très intéressant parce qu'on trouve ça dans l'Apocalypse. J'ai noté Apocalypse 4, 3. Que nous est-il dit ? Et quand l'apôtre Jean est ravi en esprit, il contemple le ciel, le trône de Dieu. On a chanté tout à l'heure là, des louanges qui sont dites devant le trône de Dieu avec les anciens. Et quand il décrit la gloire de Dieu, il ne trouve pas d'autre mot pour décrire cette gloire que celui qui était assis sur le trône, oui, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. C'est bizarre. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Vous imaginez ? Moi, quand je lis la Bible, surtout quand je traduis, j'aime bien, enfin, je suis comme ça, j'imagine la scène, permet de comprendre. Donc là, je me dis, celui qui est assis avait un aspect de sardoine et de jaspe. Bon, j'imagine les couleurs qui sont à peu près plutôt dans du rouge, mais ça ne m'avance pas plus, en fait. Je me dis, qu'est-ce que ça veut dire, ce que charabia ? Mais en fait, il faut en quelque sorte avoir les décodeurs. Et vous saviez que sur le pectoral du jugement, donc, il y avait 12 pierres. Il y avait en même temps 12 noms. Vous savez que chaque nom signifie quelque chose. Ruben, voici un fils, Lévi, il a loué, etc., etc. Donc déjà, c'est tout un message, ça en soi. Et puis, chaque pierre aussi évoque quelque chose. Mais, pour faire très court, en fait, Ruben, c'était qui pour Jacob ? Son aîné, son premier-né. Et la pierre de jaspe, elle a fait référence à la dernière pierre. Le dernier fils qui était Benjamin, pas Netanyahou, c'est le même nom. Mais Benjamin, c'est quoi ? Fils de ma droite, Ben, c'est le fils, et Netanyahou, la droite. Donc, fils de ma droite, Benjamin. Et maintenant, on a la clé. C'est-à-dire que celui qui était assis était le premier-né, enfin je l'ai écrit pour que ce soit très clair, la jaspe, Benjamin en hébreu signifie fils de ma droite, la même où Jésus est assis à la droite de Dieu. Vous êtes d'accord ? Donc si on paraphrase ce verset, celui qui était assis n'était autre que celui qui est le fils de la droite et le premier-né. Il s'agit donc de Jésus glorifié. Mais attention, je mets attention parce que on peut tout de suite tomber dans du modalisme, d'une hérésie liée à la christologie et à la Trinité. Parce qu'il faut faire attention à ça. Je sais qu'avec les réseaux sociaux, tout ça, il y a beaucoup d'épidémies, beaucoup de bêtises qui circulent. Et comme je suis quelqu'un qui qui, je ne me considère pas comme un défenseur de la parole de Dieu. Je pense que la parole de Dieu se défend elle-même. Jésus n'a pas besoin d'avocat, il est l'avocat. Mais disons que je n'aime pas qu'on fasse dire des choses que ce que la parole de Dieu ne dit pas. Quand on veut tordre le sens des Écritures pour justifier un truc, je n'aime pas. Donc, Jésus est Dieu, on est d'accord. Il est d'essence divine, mais Jésus n'est pas le Père. Ça, il faut être assez très clair. Vous pourrez faire tout un cours sur la théologie, enfin, en tout cas sur la Trinité, parce que des fois, on ne comprend pas. On dit, alors, donc le Père et le Fils, c'est trois dieux. Non, nous n'adorons pas trois dieux. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous les trois d'essence divine. Hein, et il n'y a pas de confusion de personne. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup, qui est aussi une démonstration, elle vaut ce qu'elle veut, c'est le Shema Israël. Shema Israël, Adonai Elenu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un Echad. Rien que déjà sur ce mot, il y aurait beaucoup à dire. Mais le Shema Israël, il commence par la première lettre, un Shin. Vous voyez le Shin, comment c'est représenté? Mais si, le Shin, vous avez un socle et vous avez trois flammes. Là, un socle commun, l'essence divine, et trois manifestations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas confusion de personne. Donc je vous ai parlé du contexte de la ville pour bien comprendre de ce qu'il est question dans Sardes. Et donc j'ai noté, parce que dans chaque lettre que Jésus adresse à ses églises, pratiquement à toutes, il dit « Je connais tes œuvres ». C'est-à-dire Jésus sait tout. Ça, je ne vous apprends rien, Jésus sait tout. Mais il va dire à chacune de ses églises « Je connais tes œuvres ». C'est-à-dire on ne peut pas le leurrer. Jésus connaît, il sait tout. Il connaît nos œuvres. Mais, à part une ou deux églises où il n'a pas, enfin, il a rien à redire, les autres, il y a quand même un avertissement. Il y a quand même des choses que Jésus reproche à ces églises. Mais ce n'est pas reprocher pour reprocher, c'est pour corriger, pour que l'église se reprenne. Alors on peut se poser la question pour cette église. Pourquoi donc une telle sévérité dans ce qui lui est reproché, alors que cette Église semble avoir une si bonne réputation? En tout cas, ce qu'elle dit d'elle-même, parce que si on remet le texte, si tu veux bien remettre le verset, juste après, « Je connais tes œuvres, tu as la réputation d'être vivante, mais en réalité tu es morte. » Je l'ai pris de ma traduction que je suis en train de faire actuellement, et j'ai trouvé intéressant de mettre « mais en réalité », parce que je pense que ça nous ramène en fait à la réalité. Tu as la réputation, même le mot « réputation », ce n'est pas forcément juste. « Nomos » en grec, c'est « tu as le nom ». Enfin, tu as un nom, on pourrait dire, tu as un nom qui te fait passer pour être vivant. Maintenant, vous comprenez, tu as la réputation vivante, c'est la même chose. Mais en réalité, c'est-à-dire que moi, enfin pas moi, Jésus, moi, le chef, la tête de l'Église, je vois autre chose que ce que ta renommée, ta réputation laisse entendre. Pour moi, tu es morte. Je ne sais pas pour vous, mais c'est violent. C'est terrible même. On pourrait dire que c'est mortel. Donc, on se pose la question, qu'est-ce que Jésus a donc à reprocher à l'église de Sardes pour que le verdict soit quand même terrible? Par rapport aux autres lettres, lorsque l'on les lit, il ne semble pas y avoir de mauvais enseignements. Pour les autres, on parle de la doctrine de Balaam, on parle de Jézabel, on parle des Nicolaïtes, tout ça. Là, il n'est pas question de ces choses-là. n'y a pas non plus d'opposition venant de l'extérieur, des ennemis qui viennent ou qui viennent s'infiltrer pour détourner. Non, il n'y a pas d'enseignement erroné comme il est fait pour Thyatire. Pas d'opposition non plus, ni extérieure de la part des païens, ni intérieure, que ce soit par des rivalités ou des disputes, ce que Paul dénonce largement dans 2 Corinthiens, entre autres. Il n'est pas non plus parlé d'attaque de Satan, comme presque dans toutes les autres lettres. Il semble que la persécution y ait été aussi forte qu'à Smyrne à Pergame. Donc une belle église, en réalité, et qui a, en plus des œuvres florissantes, probablement d'entraide, dans ce qu'on arrive à décoder, en tout cas, de ce qui est donné de cette lettre. Donc on comprend vite que Sardes devait certainement servir d'exemple, loin à la ronde des églises, qui certainement n'avaient pas le scanner de Dieu, et de dire « Waouh, mais là-bas ça bouge, là-bas il y a la vie, là-bas presque c'est faut y aller, c'est l'église de l'été. » Vous savez, il y a le tube de l'été, il dure, allez l'été c'est 2 mois, puis après vous reprenez à la rentrée, puis le tube il passe. Puis il y a aussi l'église de l'été, on a connu ça des églises de l'été, ils sont là en haut, et puis demain il s'est passé des choses, et ça passe vite aux oubliettes. Et même nous. Nos ministères, des choses passent. Tu peux être au top aujourd'hui, puis demain, vous savez, on t'oubliera vite, tu n'es pas indispensable. Donc, c'est en cela où il faut veiller. Ce n'est pas parce que tous les autres viennent en venant ici, comme si c'était presque un lieu de pèlerinage, que ce n'est pas ça. Donc, mais le regard de Dieu, lui, est tout autre sur l'Église. Vous vous rappelez quand Samuel, Dieu l'envoie pour aller oindre David. Alors, il y a les fils d'Ishaï qui sont là. Et puis Samuel, il voit le premier, il se dit dans sa tête, il dit « Waouh, c'est certainement lui, quoi !» Et puis Dieu lui dit « Moi, je ne regarde pas comme les hommes. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, lui, regarde au cœur. » Donc Jésus ne confond pas vitalité et la vie. Certes, cette église de Sardes semblait avoir de la vitalité, elle avait certainement des projets intéressants, des cultes fréquentés, des moyens qui lui permettent de soutenir différentes œuvres, mais elle n'a pas la vie, elle n'a pas l'essentiel, la vie même. Et cette sentence pour cette église comme un coup de massue. Tu as la renommée, tu as la prétention, tu as la réputation d'être vivante, mais en réalité, tu es morte. Ça me fait penser aussi à Samson. Vous savez, Samson, il en avait. Il pouvait démonter tout, rien ne l'arrêtait. Très, 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 très fort extérieurement, mais alors faible intérieurement, et en ce qui concerne les femmes, je crois qu'il était le plus faible. Mais il y a cette image aussi qui m'a parlé, que j'ai trouvé intéressante, parce que des fois, des images aussi, ça parle. Pour ceux qui sont amateurs de western. Vous savez, les westerns, c'est assez facile à tourner, ça ne coûte pas très cher, parce que vous avez juste besoin d'une rue, et puis un bar. Et tout le reste, alors si aujourd'hui on prenait un drone, ça c'est très intéressant, vous vous mettez au milieu du village, enfin de la rue, où il y a souvent les... Et puis vous prenez le drone, et puis vous regardez en fait d'en haut, et en fait vous vous rendez compte que il n'y a rien. C'est juste de la déco. Vous avez des façades, et puis derrière des bâtons qui sont là pour tenir. En fait, c'est de la façade. Et on a l'impression qu'au milieu de ça, il y a la vie, il y a de l'activité. Les gens ont une vie, ils vont au bar, machin, il y a des querelles, trucs, des diligences. Mais en fait, c'est du leurre. C'est du leurre. Donc, la mort, il est question de mort, mais en réalité, tu es mort. Donc, posons-nous la question, qu'est-ce que la mort ? Qu'est-ce que la mort ? Tu as la réponse. Qu'est-ce que la mort ? Quelqu'un, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, ce n'est pas un piège, mais si je vous dis qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que vous répondriez ? L'inverse de la vie, l'absence de vie, tout est dit. C'est ça. La mort, c'est quoi ? Ben, c'est l'absence de vie, tout simplement. le non-aboutissement ou la non-réalisation aussi d'un potentiel de vie. Tout ça, ça s'appelle la mort, tout simplement. La mort, c'est aussi la déconnexion au flux divin, au canal, c'est-à-dire d'être connecté avec Dieu. Si vous n'êtes plus connecté avec Dieu, vous êtes mort. Or, la vie, c'est quoi ? C'est le résultat de l'union du masculin et du féminin. Masculin, féminin, ce sont deux principes. Je sais que Mathieu aime beaucoup, ça fait écho avec ce qu'il a partagé la semaine dernière et le livre de la Genèse, qui est extraordinaire, et le premier chapitre est extraordinaire. Tout dans ce premier chapitre est régi par le masculin et le féminin. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Le ciel, masculin, la terre, féminin. Principe du masculin, le masculin, il fait l'action. Il est détenteur de la semence divine. La pluie tombe dans la terre, le féminin n'est qu'Eva, la trouée, en tout cas celle qui accueille, va recevoir la semence, va la bâtir et va produire le fruit. La vie, le produit de ce que nous sommes en est typique. Dans l'agriculture, ça marche comme ça, mais tout est régi dans le masculin et le féminin. La vie n'est que le résultat de l'union du masculin et du féminin. Jamais on a vu qu'un masculin et un masculin peuvent produire quoi que ce soit. C'est très simple. Je pense que tu vas comprendre de quoi je parle. Vous savez, si vous êtes dans les magasins, vous avez le PVC. Vous avez du PVC pour les gouttières, vous avez masculin-féminin, vous en avez mâle-mâle, vous avez femelle-femelle. Alors, pour bien que ça s'emboîte, il vaut mieux prendre un mâle qui rentre dans la femelle. Et puis vous mettez la colle et ça tient. Maintenant, essayez d'aller mettre deux mâles ensemble. Mettez deux femelles ensemble, vous ne pouvez pas. Pas possible. La nature même, Dieu fait que le masculin et le féminin produisent toujours la vie. Toujours, c'est un principe. Et quand on veut toucher à ça, le diable a compris, quand on touche à ça, on touche à un principe divin. Genèse 1, 26, tu en as parlé la dernière fois, créons l'homme, l'être humain, Adam. Dieu dit, faisons l'être humain à mon image, à notre ressemblance. En fait, qu'est-ce que Dieu va créer ? Il va créer un Adama, c'est-à-dire un être humain. Il n'est pas mal. Parce que souvent, on pourrait imaginer que c'est un homme. Non, c'est un être humain. Et cet être humain, il est créé à l'image de Dieu. Il est quoi ? Le texte nous le dit. Il est Zarar ou Nekeva. C'est-à-dire, il est masculin, féminin. Certaines traductions traduisent homme et femme, et ce n'est pas bon. Parce que ça... c'est pas bon parce que homme et femme, c'est ish, isha. On en parle après. Et mâle et femelle, j'aime pas trop. C'est plutôt pour les animaux. Mais on a fait des recherches archéologiques, des recherches généalogiques sur la famille. Et on voit que dans les livrets de famille, ils mettent quand l'enfant il naît, ils mettent masculin ou féminin. Vous voyez, c'est un principe. Et quand Dieu va créer le premier Adama, ce premier Adama, il est masculin et féminin, parce qu'il est à l'image de Dieu. Et comme Dieu est vie, il crée un être à son image capable de communiquer la vie. Et le diable veut attaquer ça. Le diable s'attaque à l'image de Dieu. C'est en cela où il faut veiller. Donc je disais, dans ce cas de l'Église, nous pourrions dire que c'est l'union de l'esprit, rouar, féminin, et de la parole, qui est le logos, qui est masculin, et cet union des dieux, cet union des deux, pas des dieux, des deux, va produire la vie au sein de la communauté. Et là, je vais essayer d'éveiller, en tout cas, les consciences. Peut-être que tu veux montrer, là je parle plus d'une manière individuelle, pas forcément collective, il y a un message collectif pour la communauté, mais il y a aussi un appel personnel. Pour nous, dans nos vies. Et j'ai noté, peut-être que tu veux montrer, que tu as pris l'habitude de montrer que tout va bien, que tout va pour le mieux. Mais si c'est le cas, tant mieux pour toi. Mais voilà, pour d'autres, on fait semblant. On porte un masque. On montre une façade. Tu n'oses pas. Tu n'oses pas t'exposer. C'est pas évident. Et puis c'est inconfortable. Tu n'as pas appris à te rendre vulnérable. Donc tu parais. Tu es là. Tu parais. Mais tu n'es pas. Tu fais paraître quelque chose. Mais je crois, parce qu'on est tous de la même nature, je crois qu'au fond de toi, il y a un cri. Un cri silencieux. Même parfois un cri qui te ronge, parce que tu n'arrives pas à le faire sortir. Alors je vais faire un petit coup de pub. Si tu as un cri qui n'ose pas sortir et que ça commence à traîner, il y a aussi une solution. C'est tu t'inscris à GPN. Je fais de la pub parce que j'y étais, donc je sais. Et moi, j'ai un cri qui est sorti là-bas. J'étais constipé depuis 30 ans au niveau des émotions par rapport à mon histoire qui m'est personnelle. Mais il y avait besoin de que ce cri sorte. Et quand je dis ça m'a déconstipé, comprenez l'image, c'est que c'est pas bon en même temps. Mais à un moment, il faut que ça sorte pour le bon fonctionnement de qui nous sommes. Donc oui, j'ai expérimenté GPN et je sais que Dieu utilise aussi les équipiers GPN. Donc pour les femmes, désolé, hein, c'est tellement pris, mais pour les hommes, j'ai vu qu'il y avait encore quelques places. Donc c'est vraiment, ça fait vraiment du bien. Donc voilà, mais en tout cas, s'il y a un cri qui te ronge, il faut que ce cri sorte. Je ne sais pas de quelle manière, peut-être tu vas dans la forêt, tu cries, mais à un moment, il faut que ça stoppe. Parce que même peut-être tu en as marre de cette routine religieuse dans laquelle tu es. Je l'ai été. Peut-être même des fois, je le suis encore. Il y a certainement des restes. Je ne suis pas meilleur que vous. Mais des fois, on en a marre de ça. De cette religiosité qui nous colle à la peau. On va dire, mais quand est-ce que cet habit, je sais pas, je l'enlève, je le brûle, j'ai plus envie qu'il revienne. Mais il revient parce qu'il fait partie de ce contre quoi ça nous agace. On a envie de dire stop. Ça, c'est pour ceux qui commencent à s'endormir. Stop de faire semblant. Stop de jouer aux chrétiens du dimanche. Il y en a qui ont envie d'arrêter de jouer aux chrétiens du dimanche. Stop de jouer aux chrétiens du dimanche. Ras-le-bol. Il y a autre chose à vivre que ça. Peut-être que tu es mort et que tu ne le sais pas. Oui, peut-être que tu es mort et tu ne le sais pas. Et le message de la parole, c'est toujours un avertissement. Mais vous savez, on est souvent piégé par les mots. Parce qu'on a tous été à l'école, et quand vous avez fait une bêtise ou quand vous avez eu des mauvaises notes, on dit, eh ben, on va te mettre un avertissement. Pourquoi ? Parce que tu dormais et tu n'écoutais pas. Donc on va te donner un avertissement. Vous voyez ? Et vous le recevez comme quelque chose en fait, qui vous plombe. Qui est en fait comme quelque chose de négatif. Mais en fait, l'avertissement, ce n'est pas ça. Et souvent, quand on dit avertissement, c'est, voilà, on réagit parce qu'on ne veut pas d'avertissement, on a l'impression qu'on était mauvais élèves. Mais quand Jésus avertit l'Église, c'est pour éviter le danger. Imaginons Jonathan, il est devant moi en voiture, et puis il commence à faire nuit, et puis certainement il a une journée harassante, il est fatigué, et puis moi je le vois qu'il commence, et en plus il y a un ravin, là on est dans l'Ardèche profonde, et puis je vois qu'il commence et puis ça peut être dangereux pour lui, parce que ça peut être sa vie. Donc moi je vais l'avertir, je vais faire des appels de phare, et je vais klaxonner pour l'avertir du danger qu'il guette. Donc je lui envoie un avertissement, mais il va me remercier, et on va essayer. Maintenant, à l'école, on vous donne un avertissement, vous allez remercier les professeurs. Non. Donc, vous voyez que c'est pas comment on comprend les choses quand on dit « Jésus donne un avertissement à l'Église ». n'est pas quelque chose de « je te donne un avertissement parce que tu as vu dans quel état tu es, c'est insupportable, tu crois ». Non, ce n'est pas ça. C'est Jésus averti, il le dira lui-même. Moi, je reprends et je corrige qui ? Ceux que j'aime. Donc s'il le fait, c'est parce qu'il nous aime. C'est pour notre bien. Tu peux être vivant, mais tu es mort. Vous savez, ceux qui me connaissent, j'aime la parabole de Luc 15. C'est un joyau parmi les paraboles. Et puis ce fils prodigue, pas prodigue, j'aime pas le mot prodigue parce qu'il est mal adapté, mais ce fils cadet va quitter la maison du père. Il va se déconnecter de la présence du père parce qu'il se dit, moi je veux vivre ma vie. Et comme ça, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, père, donne-moi, c'est très difficile à traduire, il n'y a pas beaucoup de traductions, c'est pour ça que moi j'ai osé, mais bios c'est quoi? Bios c'est la vie, biologie, c'est la vie. Il va demander ça à son père, donne-moi ma bios. Et leur père va leur partager sa vie. Ça amène à une autre lecture de la parabole. En quelque sorte, le fils cadet veut dire quoi? Moi la vie du père, c'est bon, c'est bon quoi. Moi, je veux vivre ma vie. Moi, je veux vivre ma vie. Je prends l'argent et je vais m'éclater. Et quand il aura tout dépensé, il n'y a plus d'amis. Et là, il se retrouve au milieu des cochons. Et là, malheureusement, parce que des fois, il faut tomber bien bas pour avoir la métanoïa, il est dit, alors étant entré en lui-même. Et ça, tu ne pourras pas le faire au milieu des foules. Quand je parlais du cri tout à l'heure, peut-être c'est quand tu seras enfermé dans ta chambre, que tu seras seul, que là tu vas te dire, tu vas falloir te rentrer en toi-même. Et là tu vas commencer à dire, c'est vrai quand j'étais chez papa, j'avais ci, j'avais ça, ça, j'ai pas réalisé. Et là je suis dans cet état pitoyable, je pue, et j'ai plus un rond, et j'ai plus d'amis. Et même ceux qui viennent donner des caroubes aux cochons, presque, il ne leur en donne pas. Et je me suis interrogé, parce que c'est comme le Rubik's Cube, cette parabole. Et c'est, je dis, mais pourquoi il ne lui en donne pas? Je pense que, comme beaucoup, il y a des anonymes parmi nous. En fait, on ne les voit pas. On donne aux cochons, mais lui, peut-être qu'il était... On ne le voyait pas. En fait, c'était un anonyme de la société. Et là, il dit, non, ça ne va pas. Je me lèverai. Et j'irai chez papa. Et je me lèverai. En grec, ça peut être aussi traduit par « je ressusciterai ». C'est le même mot. Un traducteur a osé faire ça, mais on perd un peu le lecteur des fois. C'est là la bascule de la parabole. Parce qu'il a fait cette introspection, qu'il a réalisé, qu'il dit « je vais me repentir et je vais aller m'excuser à Dieu, j'ai péché envers le ciel ». Enfin, c'est Dieu. On sait que le Père aussi, c'est Dieu. Mais c'est aussi envers le prochain, celui à qui il a fait du tort. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se reconnecter à la maison du Père. Il va rentrer dans la maison du Père. Pourquoi? Parce que le Père va dire, j'ai mis le verset juste avant, je crois, ou après. Parce que celui-là, mon fils, que voici, il était quoi? Et il est revenu à la vie. Il était quoi? Il était mort. Et pour bien que les gens comprennent, ils disent... Il était perdu, il est retrouvé. Donc dans le vocabulaire biblique, quand on parle de perdu, c'est que tu es perdu, c'est-à-dire que tu es coupé de la source de vie, donc en quelque sorte tu es mort. Quand tu n'es plus connecté à Dieu, tu es mort. Ça, il faut bien avoir conscience. Le fils aîné, lui, il est où dans la parabole? Or, le fils aîné était dans les champs. Mais qu'est-ce qu'il foutait dans les champs, mince? Il est censé reprendre l'exploitation de son père. Qu'est-ce qu'il fait dans les champs? Il n'est pas dans la maison. Il est déconnecté. Conséquence, il va produire des œuvres religieuses, ce qui est tout à fait normal. Moi, je n'ai jamais transgressé un seul de tes commandements. J'ai été fidèle en tout. Et quand son père sort, le père sort toujours, le père sortit, et il le supplia, enfin, il insiste. Mais il ne dit pas, tu rentres. C'est toute la tendresse, la délicatesse de l'esprit. On voit à travers le Père que c'est l'action de l'esprit, para, kaleo, paraklésis, celui qui appelle. Mais le texte dit, alors le père insista, le pria d'entrer, mais il ne le force pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne voulait pas rentrer. Et la parabole se termine, on ne sait pas. Parce que c'est nous, chacun d'entre vous. On a tous été fils cadets. On a tous été fils aînés. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? La parabole est là pour nous interpeller. Et il y a cette dualité en nous, de l'un ou de l'autre. Et le religieux est là. Mais dans les deux cas, on est déconnecté de la maison du Père. Et quand il va dire « le fils est né », il entend quoi? Dans la maison du Père, de la musique et des danses. Donc, il y a de la musique et des danses dans la maison du Père. Expression de la joie et de l'abondance, parce qu'on mange à profusion. Je termine. Il dira, il y a quelques personnes à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. C'est le reproche qui est fait à cette église, en tout cas. C'est qu'il y a quelques personnes du sein de la communauté de Sardes qui, en quelque sorte, sont restées pures, parce que leurs vêtements sont propres. C'est-à-dire que les autres, en quelque sorte, se sont corrompus. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, dans les récompenses sont toujours en lien avec ce qu'on a reproché. Juste après. Voilà. Celle d'après. Voilà. Donc, il dit à Sardes, il y en a quelques-uns parmi vous qui ont gardé leurs vêtements purs. C'est-à-dire que les autres, leurs vêtements sont souillés. Donc, il y a la notion du vêtement. Donc, conséquence dans la conclusion qui va dire, c'est de vêtements blancs que le vainqueur sera revêtu. Et l'autre, juste après, il va être question des noms. On a parlé des noms. Tu as un nom, une réputation. Conclusion, je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Et il est question aussi du livre de vie, c'est-à-dire d'être assuré de la source de vie. Et donc, c'est ce mot sur lequel je m'arrêterai qui dit que tu n'as pas, enfin, il y a quelques-uns parmi vous, parmi Sardes, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Souillé leurs vêtements. Souillé, la souillure. Ça vous fait à quoi la souillure? Bon, ça vient du grec moluno, qui a donné en même temps le mot mélasse. Ceux qui font de la cuisine savent ce qu'est la mélasse, hein? Mélange de sucre, qui est un liquide visqueux qui est plutôt noir. Et ça serait plus juste aussi de traduire « ils n'ont pas noirci leurs vêtements ». C'est comme ça qu'on devrait le traduire littéralement. « Ils n'ont pas noirci leurs vêtements ». On comprend que quand on dit « souiller ses vêtements », c'est à la même notion. Mais c'est à cette notion de polluer, de se salir par un contact ou la fréquentation de personnes immorales. Et ici, ça peut aussi faire, pas exclusivement, mais référence à la contamination des péchés sexuels, parce que c'est principalement cela, généralement, qu'il est question, mais tout autre péché d'ordre moral, quand vous allez commencer à baver sur quelqu'un d'autre, à critiquer tous les péchés liés à la langue, qu'on appelle en hébreu le lachonara, c'est-à-dire la langue mauvaise, tous les péchés, le mensonge, la calomnie, toutes ces choses-là, il faut veiller, parce que ça souille. Donc il faut comprendre que le vêtement est une métaphore dans le langage biblique de la conduite et du caractère du croyant. Et c'est en cela où il faut vraiment se garder pur. Est-ce qu'il y en a qui ça a parlé ce matin? Merci Mathieu. Ouf, j'ai gagné le responsable. Non mais c'est sérieux, comme je dis, c'est une question de vie ou de mort. Je parle... Qu'on soit bien d'accord, le message, je ne fais pas d'allusion à notre communauté, c'est pas ça. Mais c'est bien aussi de se laisser parfois interpeller. Interpeller pour éviter que ce constat soit dit. Donc oui, on aime la louange, qu'il y a la vie, on aime, on n'a rien contre ça, on aime qu'il y ait la vie. Mais assurons-nous que ce soit véritablement la vie qui vienne de Dieu. Et si c'est le cas, continuons, et même on va dire éclaboussons les autres, il n'y a pas de souci. Mais si on se leurre, et je fais confiance aussi pendant ce temps de jeûne, où on va être à l'écoute de Dieu, savoir si on a cette attestation de ce que nous faisons, en tout cas on est dans la bonne direction. Et puis je parlais tout à l'heure, en début, de se positionner tout à nouveau, de reprendre un engagement. Alors je ne vais pas forcément dire ceux qui veulent s'engager peut-être tout à nouveau, ou qui ont pris conscience qu'ils sont tombés dans une certaine léthargie spirituelle, une certaine torpeur, et qu'ils veulent se ressaisir et d'une certaine manière, par un acte, se lever pour dire « Seigneur, je veux me réengager avec toi ». Alors on pourrait effectivement se relever, ceux qui le veulent, mais je crois qu'on pourrait tous à la rigueur se lever. Comme ça, ceux qui ne veulent pas se lever, eh ben, ils seront pas, on les jugera pas. Mais je crois que tous, et en même temps, ça peut être aussi un acte en tant que communauté, parce que nous sommes une unité plurielle, composée de plusieurs, mais nous sommes une unité. Nous voici devant toi, nous nous tenons devant toi.